cobuzz.com. Rencontre par Marc Zisman.
Son poète était claudiquant, malade, frêle, tremblotant. Il protégeait des dérives du vin qu'il buvait trop souvent, avant que la mort ne nous taise. Son poète était claudiquant, mais son verbe marchait bien fier et faisait triompher dans l'air les mots de l'âme des vivants. Il parlait des choses avec aise et pouvait faire d'un gueule roi, d'une vieillarde, une princesse, d'une putain, la belle au bois, avant que la mort nous apaise.
Bonjour Alexis HK.
Bonjour.
Alexis HK, c'est le chapitre 4, c'est ça, le volume 4, le dernier présent.
C'est ça, oui. Enfin, il y en a eu d'autres. C'est une affaire, ouais. C'est une discographie un peu éparse, parce qu'il y a eu un album pour enfants, des lives et ainsi de suite, un premier album inavouable.
Toujours non.
Non, mais bon, un premier album où il fallait bien débuter, il fallait bien commencer. Mais oui, celui-là, c'est le quatrième officiel, on va dire.
C'est quoi l'étape qui vous fait transpirer le plus quand vous faites un album? C'est qui vous... pas qui vous pose problème, mais vous en sortez, qui vous toujours pénible. Est-ce que c'est dans l'écriture, c'est l'enregistrement, la prise de son, dans la production? Est-ce qu'il y a des... ou finalement, non, il n'y a pas vraiment de vraie souffrance?
Bah, dans la création, il n'y a pas de souffrance, parce que moi, je fais ce métier-là pour prendre du plaisir. Donc, il y a des moments de rush, parce qu'il y a des moments où il faut boucler des choses, et il faut... voilà, donc où on est un peu plus speed, mais la création, c'est pas très stressant. Donc c'est plus la sortie qui est stressante, puisqu'on sait jamais comment un album va être accueilli, et que le miroir qu'on renvoie à ce qu'on propose est toujours assez imprévisible. Donc on essaie de faire les choses au mieux, mais le voilà, il y a un petit stress pour tout le monde au moment de la sortie, parce qu'il faut aller défendre l'objet devant le reste du monde. Mais sinon, quand il faut le faire, c'est toujours un plaisir. C'est toujours un... Après, effectivement, il y a des étapes où on transpire plus. L'écriture des chansons en elle-même, c'est un moment où, bon, voilà, où on se pose beaucoup, beaucoup de questions. On est un peu perdu dans le néant, comme ça, à faire le tri de ce qu'on voudrait vraiment dire. Mais sinon, c'est quand même un métier épanouissant, enrichissant.
Justement, vos chansons, vous les pensez plus en termes d'album ou en termes de chansons? Parce qu'on a quand même l'impression qu'il y a à chaque fois une sorte de... comme des romans un peu finalement, avec des...
même si les chansons... Pour cet album-là, on a essayé de penser quand même à une certaine homogénéité entre les chansons. On a vraiment envie que ce soit pas un patchwork, alors que le précédent, je m'étais plus donné la liberté de dire, vas-y, viens, on met les choses les unes à la suite des autres, et puis voilà, c'est une ligne artistique comme une autre. Mais là, sur celui-là, ouais, moi j'ai vraiment voulu réfléchir en termes de cohérence globale. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est plus trop dans un monde de singles. Alors, on fait des singles pour passer à la radio, mais en fait, on attend des artistes qu'ils aient un projet, qu'ils aient quelque chose d'ensemble, une vue d'ensemble, et pas seulement une super chanson qui va leur rapporter plein de pognon. Parce que c'est plus comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on attend vraiment une globalité, un projet d'ensemble.
Il y a une vraie densité sur cet album, non pas que jusqu'ici vous ayez des chansons paillardes, mais il y a effectivement, on sent vraiment, il y a des dans les titres, dans certains textes, c'est quelque chose qui était sur votre feuille de route dès le départ, qui s'est fait progressivement. Et d'ailleurs, comment ça se passe en général quand vous attaquez, vous savez que vous allez vous engager dans le processus d'un nouvel album, est-ce que finalement il y a un côté un peu d'improvisation, ou vous avez vraiment votre mode d'emploi en main dès le départ?
Non, il n'y a pas vraiment de mode d'emploi. La feuille de route se dessine quand même au fil de la route. Après, disons que...
Il y avait une envie particulière par rapport à ce disque, justement.
Dans ce disque, il y avait une envie particulière de parler de certaines choses qui correspondent plus à un certain moment de ma vie. C'est-à-dire qu'il y avait plus de gravité par endroit, parce que voilà... Je pense qu'on est, on est dans une époque bizarre où on a envie de parler de choses qui sont parfois un petit peu plus tristes, un petit peu plus graves, mais comme c'est de la chanson, on essaye de rester léger. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on est dans un moment assez charnière et où il y a une urgence d'être heureux, il y a une urgence de recomprendre que tout ça ne fonctionne que par l'amour que les gens ont les uns pour les autres, que l'amour pour ses proches et l'amour pour même pour l'humanité en général. Il y a une urgence d'être heureux et moi j'avais envie de parler de ça parce que voilà, on essaye de nous vendre un petit peu en ce moment un monde très déshumanisé, très dissous. Et moi je crois encore à certaines choses positives et en même temps j'ai des angoisses de la façon dont tout ça tourne en ce moment. Et j'avais envie de parler de tout ça dans ce disque, mais sans plomber tout le monde non plus et en y mettant une mélancolie qui soit quand même positive. Parce que dans la mélancolie, il n'y a pas que de la dépression nerveuse, il y a aussi un certain regard sur les choses qui à l'arrivée peut finir positivement. Et je me suis laissé porter par toutes ces idées-là et c'est comme ça que l'album s'est fabriqué, ouais, s'est construit.
Est-ce que toute cette réflexion, c'est aussi une manière pour vous de réfléchir à qu'est-ce que représente un chanteur ? Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que c'est un commentateur social, un entertainer ? Est-ce que c'est tout ça ? Et d'ailleurs, est-ce que vous, quand vous êtes engagé dans cette... Ça fait plus de 20 ans, je crois, maintenant, que vous écrivez des chansons.
Ouais.
C'est des questions auxquelles vous êtes, ou des interrogations que vous vous êtes plus ou moins posées ?
Bien sûr, la question de sa propre légitimité, déjà, dans un monde où il y a énormément de chanteurs et énormément de gens qui font des très, très belles choses. Donc ça, déjà, c'est une question qu'il faut dépasser, qu'il faut réussir à dépasser pour se dire, mais si, bien sûr, moi, je suis légitime, j'ai mon point de vue. Et puis des chanteurs, il faut qu'il y en ait plein, parce que chacun donne son petit regard, sa petite lumière sur les choses et voit les choses à sa façon. Donc c'est ça qui est intéressant dans la multitude de chanteurs. Donc effectivement, je trouve que c'est une très bonne question de savoir quelle est sa propre légitimité dans ce métier, ce qu'on peut apporter, trouver sa propre écriture, sa propre façon de s'exprimer et être aussi un peu dans une thérapie personnelle, de dire, bon, moi, c'est faire des chansons, c'est mon lien avec le monde, c'est la façon que j'ai trouvé pour ne pas rester isolé et pour partager des choses avec des gens qui vont me faire l'honneur de venir m'écouter. Donc effectivement, il y a toutes ces questions-là. Et puis à un moment donné, le métier, c'est le métier, il faut le faire. Parce que c'est bien de se poser des questions, mais à un moment, il faut agir. Donc il faut dépasser aussi les questionnements pour dire, on y va maintenant. On chante, on écrit, on enregistre, on fait de la promotion.
Je sais toujours où le trouver, c'est normal, il ne bouge jamais. Et quand le bonheur se fera, ses armes racontent son histoire. Il me dit de sa voix grave d'arbre, même si je n'ai pas beaucoup voyagé, le pays est venu à moi. Ce n'est pas de la langue de bois. Au temps de ma splendeur, des hommes sans foi ni cœur sont venus m'arracher à la forêt. Ils m'ont mis sur une place où pissent les chiens qui passent, où les pigeons sur moi se soulageaient. Ils me regardaient à peine en allant noyer leur peine dans le seul abreuvoir du quartier. J'entendais leurs cris de haine de villageois qui se plaignent du bordel que font les étrangers. Je sais toujours où le trouver, c'est normal, il ne bouge jamais. Et quand le bonheur se fera, ses armes racontent son histoire. Sous le béton mes racines, en des courbes assassines, comme une menace grandissait, s'épanouissait de colère, privée de l'eau et de l'air que tout arbre est en droit d'exiger. Elles fendirent le pavé sans se laisser entraver par les cris des passants assiégés. On fit venir une benne, on jeta mon corps d'ébène dans la fosse où tu m'as retrouvé. Je sais. Il me dit de sa voix grave d'arbre, même si je n'ai pas beaucoup voyagé, un ami est venu à moi. Ce n'est pas de la langue de bois.
Comment on fait ses choix, et surtout au début quand on s'engage dans une carrière, on sait quand vous parlez d'influence souvent, vous parlez aussi bien des grands noms de la chanson française, que ça soit Brassens, Reggiani, etc. Mais aussi on sait que vous avez aussi mangé de la pop, du rock, du hip-hop, etc. Vous parlez, je crois, de Bob Marley, donc des choses quand même, on va dire, un peu à 360 degrés. Quand on s'engage là-dedans, on fait des choix. Est-ce que votre voix, vous l'avez trouvée assez facilement, assez aisément?
Bah, j'étais, moi, quand même très porté sur le propos et le texte. C'est-à-dire que dans la mesure où on chante en français, je pense qu'il faut quand même soigner un peu la langue, parce qu'on sait que le français, c'est une langue qui peut rapidement sonner creux si on l'utilise que comme un alibi pour poser des mots sur de la musique.
C'était une évidence pour vous, au tout début, quand vous avez commencé à composer vos premières chansons ou à prendre un instrument, jouer d'un instrument, que ce qui sortait de votre voix allait être en français, vous qui aussi écoutiez de la musique anglo-saxonne?
Ah oui, pour moi c'était une évidence, parce que je ne maîtrise pas suffisamment les subtilités d'autres langues pour me lancer là-dedans. Et si j'avais été roumain, je chanterais en roumain. Pour des questions de pas de finesse de langage, mais en tout cas de
sincérité.
Ouais, de sincérité, et puis de voilà, d'être entendu, compris par les gens qui vous écoutent dans ce que vous dites, et pas seulement dans ce que vous représentez, parce que vous avez une belle mèche ou parce que vous avez, je sais pas quoi, une belle voix ou un beau grain de voix. Il fallait qu'il y ait un partage de propos, d'histoire, de mots, et donc ça, je ne pouvais le faire qu'en français. Mais bon, après, ça ne veut pas dire qu'au fil du temps, j'aurais pas envie de faire des expériences. Mais c'est vrai que pour chanter en anglais, pour moi, il faut, quand on est français, il faut pas avoir fait anglais LV3, quoi. Il faut savoir vraiment parler l'anglais et que ça fasse partie de votre culture pas quasi maternelle, pour moi, pour que ce soit bien fait et pour que on le comprenne, et que ce soit pas, et qu'on ressente pas que le mec chante en anglais parce que ça parle à plus de gens ou parce que ça fait, il y a un marché plus large ou ce genre de choses. Donc oui, c'est vraiment pour des raisons simples d'être compris, d'être entendu dans ce qu'on dit, et pas seulement dans une performance. Ouais.
Vous avez coupé facilement le cordon avec les maîtres, avec les influences. Vous vous êtes posé beaucoup de questions par rapport à ça? Ou non, finalement, naturellement, les choses se sont posées, sont arrivées?
Bah, disons que moi, mes patrons, et mon grand patron, qui est quand même Georges Brassens, parce que pour moi, c'était à la fois un personnage, un poète extraordinaire, mais aussi quelqu'un qui avait rien à faire dans la lumière, et qui s'est retrouvé en pleine lumière avec ses chansons, rien que parce que ce qu'il disait et ce qu'il chantait plaisait aux gens, alors que lui était le premier à dire que s'il avait pu ne pas se montrer, il l'aurait fait. Mes maîtres sont humbles. ce sont des artistes fragiles. Ce sont des artistes qui ne sont pas là pour faire les showmen et dire watch me now, t'as vu comme tu kiffes quand tu me vois, tout ça. Mais plutôt des gens qui sont dans une humilité d'écriture, de travail, comme ça, où ils vont proposer leurs petites histoires, et puis en espérant que ça captivera le lecteur. Et là-dessus, je pense que j'essaierai toujours de rester dans cette ligne-là, parce qu'elle me plaît, parce que c'est une ligne d'humilité, mais en même temps qui réclame de la qualité aussi. Après, voilà, on ne peut pas se prendre pour Jacques Brel, on ne peut pas se comparer à Georges Brassens. Ce sont des gens qui, bon, déjà, ont chanté à une certaine époque, qui a changé, mais aussi avec un certain talent qui est indépassable pour moi. Donc, le moment du détachement, c'est le moment où on dit, bon, de toute façon, je vais pas me comparer à toi parce que j'aurai jamais autant de talent que toi. Par contre, ce que je vais essayer de faire, c'est d'avoir mon truc à moi et de regarder les choses au plus proche de mon point de vue et de ma liberté de point de vue. Donc, voilà, les maîtres, on les aime et puis on les met de côté aussi parce qu'ils sont à leur place et que on peut pas se comparer à eux vraiment.
Vous avez parlé un peu des thématiques de dernier présent. En termes de musique, on sent aussi une sorte d'épure de plus en plus par rapport aux albums précédents, avec vraiment au niveau des arrangements, enfin des choses vraiment homéopathiques. C'était aussi une volonté d'aller dans cette direction.
Oui, il y avait une volonté de structure de chansons qui soit assez simple, de chansons pas trop longues. Moi, j'ai l'impression qu'on est fatigué en ce moment. On a beaucoup d'informations, on a beaucoup de saturation, et donc les chansons ont été modélisées de façon assez directe, et s'il y en a une, elle fait 1 minute 59, et on s'est posé la question, on s'est dit, est-ce qu'on rajoute un pont, est-ce qu'on... Non, ça ne sert à rien, soyons directs sur ce coup-là, parce que les chansons ont déjà un contenu qui peut être assez, voilà, assez dense pour certaines, et que si en plus on rajoute trop de choses derrière, et j'ai l'impression qu'on se perd un peu. Donc effectivement, sur ce disque-là, il y a eu une volonté, pour le coup, pré-effective de dire soyons simples, faisons simple, mais avec des sons qui nous plaisent, avec des sons marrants, mais sans forcément des grandes envolées musicales qui... aurait été un peu incongru et qu'on peut réserver plus pour du live où là on pourra peut-être aérer les choses et proposer quelque chose de plus voilà, peut-être de plus vaporeux, mais là c'est vrai que il y avait une volonté d'être assez direct.
Ouais. Souvent les musiciens disent que c'est plus difficile de faire simple que d'en rajouter des tonnes. Est-ce que vous partagez aussi cette vision ou pas, de garder vraiment une sorte d'essence, de moelle épinière, et qu'on a toujours tendance à rajouter des couches, des idées d'instrumentation, des...
Ah, c'est sûr que si on se laisse aller avec Pro Tools et les 350 pistes qu'on peut mettre sur un truc, on peut faire des morceaux, des gros paquets, quoi, des gros paquets, mais ça dépend si on fait de la chanson, si on fait de la pop, si on fait du rap, si on fait... Il y a tellement de styles, il y a tellement d'écoles que... Il n'y a pas une seule réponse à ça. Moi, j'aime beaucoup le hip-hop pour ça, parce qu'un bon morceau de hip-hop, pour moi, c'est un mec qui chante et derrière, il y a une boucle et ça marche, quoi. Et le mec, on l'écoute jusqu'au bout alors qu'il n'y a quasiment pas de modulation. Ça me plaît, mais j'aime bien aussi les mecs qui se barrent en couilles dans tous les sens et qui proposent, qui sont dans un délire comme ça. Quand c'est bien fait, c'est magnifique. Donc, tout est possible. Et je pense surtout, il faut toujours revenir à soi en disant, toi, qu'est-ce que tu veux, toi, quoi. Te demande pas comment fait machin ou comment fait truc. Demande-toi, toi, ce que tu veux là et ce que tu ressens. Quelle est ton intuition? Est-ce que tu penses que là, ça vaut la peine de rajouter un gros pont de 7 minutes? Ou est-ce que tu penses que le propos est assez frontal et efficace pour tracer, quoi, pour dire bon ben voilà, c'est une chanson, il y a un début, un milieu, une fin, t'as entendu ce qu'elle voulait dire, il y a de la musique derrière, mais on part pas voilà, moi j'ai pas voulu partir dans des choses trop, disons, trop ouvertes par rapport à ça, parce que je trouvais que ça correspondait pas, mais c'est un questionnement à un moment donné. Ça fait partie de la feuille de route, pour le coup, dont vous parliez tout à l'heure.
Que pourrais-je bien te raconter pour assurer tes yeux ombrageux? Il paraît que le monde va s'arrêter. Il paraît que le ciel ambitieux produirait trop de superstitieux. Il paraît que les hommes et les dieux ne savent plus faire l'univers heureux. Thank you. chaque instant comme dernier présent. Quand on sent que sombre est l'avenir, chaque instant comme dernier présent. Quand je sens la peur de l'heure de partir, que pourrais-je bien te raconter pour assurer tes yeux ombrageux? Ça me fait du bien de te parler tant que nous sommes ici tous les deux. Chaque instant comme dernier présent. Quand on sent que sombre est l'avenir, chaque instant comme dernier présent. Quand je sens la peur de l'heure de s'enfuir, nous irons vers le prochain été en caressant les beaux souvenirs, le temps que le temps pourra prêter à nos enfants pour les laisser rire. Chaque instant comme dernier présent. Quand on sent que sombre est l'avenir, chaque instant comme dernier présent. Quand je sens la peur perdre ton sourire,
vous avez parlé de mélancolie tout à l'heure. Est-ce que la mariée qu'on voit dans le clip du dernier présent, elle vient de Mélancolia? Elle serait un peu échappée de Mélancolia de Lars von Trier?
Le clip a été tourné en Islande et c'est vrai que c'est une terre quand même de mélancolie. Quoi qu'on dise, c'est un pays rugueux, c'est un pays où le temps change à la vitesse de la lumière. On peut se retrouver en plein orage alors que deux secondes avant, on était en train de bronzer. C'est un pays avec des montagnes et des icebergs. Et là, c'est pareil, sur 100 bornes, on voit 12 paysages différents. C'est un pays où il fait nuit pendant 6 mois et jour le reste du temps. Donc c'est une organisation du temps aussi qui est complètement différente. Et la mariée, ouais, cette mariée, qui a vraiment très bien joué son rôle, elle incarne vraiment cette espèce d'amour impossible avec quelqu'un qui, quand on la regarde, on se dit « mais je veux être amoureux de toi », et ben non, on va pas y arriver. Et ça, c'est un peu, effectivement, c'est un peu mélancolique, c'est un peu triste.
Il y a eu les affranchis, c'est-à-dire le cinéma, c'est une source d'inspiration pour vous, c'est quelque chose qui vous...
Par moment ou pas. Par moment ou pas. Moi, je suis assez obsessionnel, donc quand j'aime un film, je suis comme beaucoup de gens, je suis capable de le revoir... de nombreuses fois, c'est le cas pour Les Affranchis, qui est pour moi un film qui pourtant est long, il fait 2h30, mais qui se regarde tout seul. Et puis j'adorais ce film et j'avais fait un comparatif avec ma propre vie, parce que je trouvais ça marrant de comparer les gangsters et les chanteurs, non pas dans leur malhonnêteté, mais dans leur marginalité en fait, dans leur côté de marginaux, sociaux, de mecs qui vendent des rimes. Bon, il y en a qui vendent de la drogue, d'autres qui vendent des rimes et leur poésie. Donc je trouvais ça marrant et là ça m'avait inspiré. Mais sur le dernier présent, je suis revenu à quelque chose de plus personnel où j'avais envie de parler de choses qui me tenaient à cœur, de faire des bilans aussi. Quand on arrive à la quarantaine, on regarde derrière et on se rend compte que on fait partie d'une histoire, que le monde a beaucoup changé, il a pris beaucoup de figures différentes, donc ça j'avais envie d'en parler dans la deuxième chanson, dans Fils 2. Donc là c'est plus un album personnel qu'un album qui se veut cinématographique, même si dedans on essaye de mettre des images et ainsi de suite.
Sur l'écriture justement, l'aspect intime, le côté mise à nu, que vous aviez déjà fait, c'est pas quelque chose, mais est-ce que vous sentez une évolution par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des choses que vous arrivez à faire aujourd'hui, par exemple, cet album, que vous n'arriviez pas à faire sur le précédent, celui d'avant, par exemple?
Oui, j'ai le sentiment, quand j'ai quelque chose à dire, ce qui ne m'arrive pas si souvent, parce qu'il y a la plupart du temps, quand même, j'ai l'impression qu'il vaut mieux fermer sa gueule, mais quand je sens que ça vaut la peine de l'ouvrir, j'essaie de pas trop tergiverser. C'est-à-dire, j'essaie de pas trop mettre d'embâge inutile autour de quelque chose qui pourrait être plus direct et plus incisif. Donc là-dessus, je pense que il y a une évolution. Mais c'est aussi parce que moi, je sépare pas ma vie d'artiste de ma vie personnelle et j'essaie d'être au plus proche du moment que je vis. Et on pense pas la même chose à 38 ans qu'à 25 ans ou qu'à 20 ans. Il y a beaucoup de choses qu'on a dit avant qui s'avèrent fausses. Il y a beaucoup de questions dont on pensait avoir la réponse mais qui en fait restent en suspens. Et toutes ces choses-là conditionnent une évolution dans l'écriture qui fait que bon voilà, je sais pas si c'est mieux ou moins bien, mais ça change, ça évolue. On change tous, on évolue tous. Et nos points de vue divergent d'une époque à une autre de notre vie. Et moi, ma discographie, ce sera quelque chose pour moi qui, comme des albums photos, que je regarderai et qui me rappelleront toutes les époques de ma vie et qui me replongeront très facilement dans tel ou tel moment de ma vie, c'est déjà pas mal.
Le Alexis HK, non pas chanteur, musicien, mais... Le mélomane, fan de musique, il est comment aujourd'hui par rapport à avant? Est-ce que vous écoutez beaucoup de choses? Une sorte de gloutonnerie? Vous avez des phases? Comment ça se passe aujourd'hui?
J'ai des phases, il y a des moments où j'écoute pas du tout de musique parce que ça me prend beaucoup d'émotions. Je suis très sensible, donc je peux pas me gaver de musique. Et je peux pas collectionner la musique parce qu'il y a des moments où c'est trop prégnant et ça m'emmène trop loin. Et puis bon, en vieillissant, j'apprécie aussi beaucoup le silence. Donc je me suis isolé, j'habite dans la campagne, j'ai vraiment besoin de silence. Donc pour moi, un des plus grands plaisirs, c'est d'écouter de la musique en voiture la nuit. Quand je conduis la nuit et qu'il y a de la musique, là, j'ai vraiment l'impression d'être libre et j'ai vraiment l'impression d'être entre deux mondes. Donc il m'arrive aussi de me gaver, j'ai des phases, mais il y a aussi des grandes périodes où j'écoute pas de musique et je suis souvent très en retard sur ce qui sort. Et des fois je découvre des albums et je vais en parler à des gens qui me disent « Attends, il est sorti il y a 6 ans ce truc ». Je dis « Ouais, mais bon, voilà, je viens de le découvrir ». Et quand j'aime, par contre, je fais moi-même la promo des trucs que j'aime. Donc c'est très variable, très... Ouais,
il y a quoi dans votre voiture en ce moment?
Bah là, en fait...
Un CD qui est coincé dedans depuis plusieurs semaines ou...
Là, il y a un Novatunes qui est coincé dedans depuis plusieurs semaines et qui n'arrive pas à sortir parce qu'il y a 3-4 titres dessus que j'adore réécouter. Il y a un titre de Yael Naïm là, qui s'appelle You're the Only One, qui est une chanson... une fois, je l'avais entendue et puis je l'ai réécoutée une deuxième fois. Et puis au bout de la 20e écoute, elle me fait frissonner 20 fois plus. Et si je l'écoute 100 fois, elle me fera frissonner 100 fois plus. Puis il y a des vieux morceaux de hip-hop qui ont déjà vieilli, mais qui sont hyper beaux et qui sont donc voilà, mais je suis pas focalisé sur je suis pas focalisé sur des artistes en particulier. Je suis à l'image du monde d'aujourd'hui, dans une espèce de magma où il y a plein de choses où la bande originale de ma vie, que je pense comme pour plein de gens, elle est faite de plein de trucs, mais je suis pas pointu en musique, je suis pas, à part mes classiques, quoi, ceux qui m'ont donné envie de faire de la musique. Aujourd'hui, c'est une espèce de bande comme ça qui tourne.
Si avec ces envies de silence, d'autant plus présentes qu'autrefois, avec ce côté effectivement de vivre avec sa musique depuis pas mal d'années maintenant,
ouais.
Est-ce que ça veut dire que de temps en temps vous avez envie d'appuyer sur pause, d'arrêter?
Ouais, bien sûr.
Pas pour des raisons de cul-de-sac d'inspiration, mais juste comme ça par.
Mais je pense que je vais pas faire ça encore non plus pendant 30 ans, quoi. Moi, les vieux chanteurs bedonnants, ça me déprime. Donc, moi, je voudrais... ce que je voudrais, entre guillemets. Mais si ça s'appelle le dernier présent, c'est pas pour rien non plus. C'est aussi parce que il y en aura peut-être pas 20, quoi, des albums de chansons. Il y a un moment où je sais que j'aurai plus rien à dire. Et où, en tout cas avec des mots... Et donc, ce que j'aimerais, c'est faire un peu de son, un peu de musique, sans mettre de mots forcément dessus. Je fais des petits morceaux dans mon coin, à la maison, sans trop en parler. J'en envoie de temps en temps à mon manager pour lui dire. Généralement, il me défonce, il me dit « Non, c'est ton instru, elle déchire pas, retourne bosser. » Je le fais. Mais voilà, oui, il y a des moments où on a envie d'appuyer sur pause, surtout parce que quand on est auteur, compositeur, machin, il y a le côté, on se rend responsable toujours de parler, quoi. On parle tout le temps et il y a un moment où on se dit, ouais, mais là, il faut que j'arrête de parler, quoi. Il faut que j'écoute, il faut que je me pose et que je me repose. Donc, j'aime bien ce disque parce que j'ai l'impression d'avoir dit des choses vraiment essentielles, mais en même temps, il m'a vidé un peu aussi. Parce que des choses essentielles, on n'a pas tout le temps à dire. Et c'est vrai que dans une même journée, on entend tellement de choses sans importance que quand il s'agit de trouver soi-même un propos qui va parler aux gens, qui peut toucher le cœur des gens, dans lequel ils peuvent se reconnaître, là, avec cette saturation d'informations, des fois, c'est un peu dur.
On va arrêter de parler, on va juste rappeler que le dernier présent sort le 17 septembre. Merci Alexis.
Merci infiniment, merci à vous.
Amis, nous nous sommes égarés. Nous étions une poignée de bougres à flâner le long des faubourgs trop vides, sur les bancs des dortoirs glacés de la ville, issus des rangs de la middle class du Middle West, fumeurs de bang blancs comme les neiges éternelles de l'Everest, zombies qui commentent la voûte céleste. Fils de hippie, fils de centriste, fils des enfants de mai 68, fils de l'idéal du général. Fils errant dans l'ermite errant, fils de la bière et du néant, fils de l'idéal du général. Amis, nous nous sommes égarés, nous étions une poignée de bougres à glaner. Le son des trains de banlieue faisait gronder la terre du milieu. Rien ne tangue à part nos langues assoiffées du vocable des fables rugueuses où les fées enfuient, abandonnent les hommes au milieu de la nuit. Fils de hippie, fils de centriste, fils des enfants de mai 68, fils de l'idéal du général. Errant dans l'ermite errant, fils de la bière et du néant, fils de l'idéal du général. Et puis nous nous sommes éloignés dans le temps, nous avons pris bedaine et poignée d'amour, nos corps oublieux s'affaissaient sur la terre du milieu, issus des rangs de la middle class du Middle West, fumés par les gangs, méprisés par les altesses, assis, ont oublié la voûte céleste. Enfant de mai 68, fils de l'idéal du général. Et puis les avions se sont crashés, et soudain toute la terre s'est mise à trembler, mettant à sang et à feu les deux tours de la terre du milieu.
Cobuzz.com Rencontre par Marc Zisman.